Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 62, Daf Samer Bet. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande Va'atania Rabbi Hoshaya Omer, ou Bilvat Shelo Yerzenu Biado Viavirenu Arba Amot Birshut Arabim. Nous avons pourtant appris dans une braïta, Rabbi Hoshaya dit, pourvu qu'ils ne prennent pas le talisman en main et qu'ils le transportent sur une distance de 4 coudées dans la rue. On voit donc que ce n'est permis que s'ils le portent sur lui comme un vêtement, mais pas s'ils le portent en main. Comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de problème qu'ils le portent en main? Il y a donc la preuve qu'un talisman peut entrer aux toilettes. La Gemara répond enfin, non, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah qu'on peut entrer avec un talisman qui a des versets de Torah aux toilettes. Mais la raison pour laquelle dans notre Mishnah on ne craint pas qu'ils doivent l'enlever pour entrer aux toilettes et qu'après ils le portent en main, et là, Rabbe Mayaskinan, Bemechupe Or. Dans notre Mishnah, il s'agit du cas où le talisman est couvert de cuir, et c'est pour cela qu'on a le droit d'entrer avec aux toilettes. La Gemara demande, Veharet Filin de Mechupe Or. Mais pourtant, les parchemins de Tfilin qui sont recouverts des boîtiers qui sont de cuir, et apparemment, d'après ce que tu dis, on aurait aussi le droit de rentrer avec aux toilettes. Vetania, on a pourtant appris dans une braïta, Anichnas lebet akiseh, cholet tfilin, berachok arba amot, venichnas. Celui qui doit entrer aux toilettes, il doit d'abord enlever ses tfilin à une distance de 4 coudées, et seulement après entrer aux toilettes. On voit donc que ça ne sert pas, même si les parchemins sacrés sont couverts de cuir, on n'a pas le droit d'entrer avec aux toilettes. La Gemara réplique, Hatam mishum shin. La raison pour laquelle on ne peut pas entrer avec des tefillines aux toilettes, ce n'est pas à cause des parchemins qui sont à l'intérieur, mais à cause de la lettre Shin qui est gravée ou qui ressort dans le boîtier des tefillines de la tête. D'Amar Abaye, Shin shel tefillin alacha le Moshe Misinai, puisque Abaye a dit que le fait de faire un Shin au boîtier de tefillines de la tête est un ordre transmis par tradition depuis Moshe du Mont Sinaï. Le boîtier a donc lui-même une sainteté, et c'est à cause du boîtier qu'on ne peut pas entrer avec les tefilines aux toilettes. Ve'amar Abaye, dalet shel tefilin alacha le Moshe Misinai. Abaye a encore dit que la lettre dalet des lanières de tefilin est aussi un ordre transmis par tradition depuis Moshe du Mont Sinaï. Ve'amar Abaye, yud shel tefilin alacha le Moshe Misinai. Et ainsi, Abaye a dit que la lettre yud des lanières de tefilin est un ordre transmis depuis Moshe du Mont Sinaï. C'est pour cela que des tefillines ne peuvent pas entrer aux toilettes, alors que le talisman recouvert de cuir ordinaire peut de toute manière être entré aux toilettes, même si le talisman a une sainteté. C'est pourquoi il n'y a pas de preuve dans notre Mishnah qu'un talisman découvert n'a pas de sainteté et peut être entré aux toilettes. Voilà pour le Daf Samer Aleph. Shabbat Daf Samer Bet. On reprend Daf Samer Bet Amud Aleph. À la dixième ligne à partir du haut, le deuxième mot de la ligne, les deux points. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat, velo beshirion, velo bekasda, velo bemagafaim. Nous avons traduit, ni avec une cotte de maille, ni avec un casque, ni avec des jambières. Cette traduction, on va la voir tout de suite dans la Gemara. La Gemara traduit, shirion zarda. Le mot shirion signifie une cotte de maille. Kasda amarav sanvarta, le mot kasda rav dit que ça signifie un casque de cuir qui se porte sous le casque de métal. Magafaim amarav puzmeki, le mot magafaim rav dit que ça signifie des chaussettes de fer, c'est-à-dire des jambières pour la guerre. La Mishnah suivante. Lotetse isha bemachat anekuva. Une femme n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec une aiguille percée par opposition à l'épingle citée dans la première Mishnah du Perek. Velo betabat sheyesh aleha chotem, ni avec une bague qui a un cachet, velo bekouliar, ni une épingle de sûreté pour fermer les pans de sa chemise, velo bekovelet, ni avec du baume attaché dans un nœud, velo betsluchit shel plaiton, ni avec un flacon d'huile de baumier, vim yatsta chayavet chatat divrei Rabbi Meir. Et si elle est sortie avec une de ces choses-là, elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, puisque c'est une charge et pas un bijou, c'est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim potrin bekovelet ubitzluchit shel plaiton. à propos des deux derniers articles de la liste, c'est-à-dire un eau de baume ou un flacon d'huile de baumier que la femme porte au cou, les Chachamim discutent et exemptent d'apporter un sacrifice si elle est sortie avec pendant Shabbat, puisque de Horaïta ce n'est pas considéré comme une charge, mais comme une parure, et c'est seulement de Rabbanan que c'est interdit, comme ce sera expliqué dans la Gemara. Nous avons vu que pour une femme, si elle sort avec une bague sans cachet, elle n'a pas l'obligation d'apporter un sacrifice de Khatat, c'est-à-dire qu'elle n'a pas transgressé une interdiction de Horaïta, et si elle sort avec une bague avec un cachet, c'est pour elle une charge, et elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de Khatat. Là-dessus, Amaroula vechilufen beish. Oula a dit, pour l'homme c'est l'inverse, c'est-à-dire que s'il sort avec une bague qui a un cachet, il est exempté d'apporter un sacrifice, puisque de Horaïta, c'est considéré pour lui comme un bijou, une parure, alors qu'avec une bague sans cachet, il y a une transgression de Horaïta pour un homme, puisque pour lui ce n'est pas un bijou, mais une charge, et il a l'obligation d'apporter un sacrifice de Khatat. Alma kasavaroula, kol mide de chazi leish, lo chazi leisha. On peut donc déduire de là que Oula pense que toute chose qui convient à un homme et qui est considérée comme une parure, un bijou pour un homme, n'est pas considéré comme convenant à une femme, et pour elle, c'est une charge. Umide de chazi leisha, lo chazi leish, et à l'inverse, ce qui convient à une femme ne convient pas à un homme, et pour lui, c'est une charge et pas un bijou. Mativ Rav Yosef. Là-dessus, Rav Yosef a posé une question en citant une Tosefta dans laquelle il est dit « Haroim yotzin besakin, les bergers peuvent sortir avec des vêtements grossiers en tissu de sac, Velo haroim bilvad amro et la kol adam. » Et les sages n'ont pas autorisé seulement pour les bergers, mais pour tout le monde. Et là, chez Darkan, chez haroim la tzed besakin, la raison pour laquelle les sages ont cité les bergers, et puisque ce sont eux qui ont l'habitude de sortir avec des vêtements grossiers en tissu de sac, et puisque c'est un vêtement pour eux, ça l'est aussi pour tout le monde. De même ici, on devrait dire qu'un bijou qui est un bijou de femme devrait être aussi considéré comme un bijou pour un homme, et ce qui est un bijou pour un homme devrait être considéré comme un bijou de femme et pas une charge. Et là, Amar Rav Yosef, Kasavaroula Nashim Am Bifne Atzman Hen. C'est pourquoi Rav Yosef a dit que Oula pense que les femmes sont un peuple à part, et c'est pour cela que ce qui est considéré comme un bijou pour un homme ne l'est pas pour une femme, et vice-versa. Par contre, entre hommes ou entre femmes, ce qui est considéré comme un bijou, un vêtement ou une parure pour l'un, l'est aussi pour l'autre. Etve Abaye. Abaye pose une question sur cette réponse de Rav Yosef en citant une Tosefta de Eruvin, dans laquelle il est dit « Hamotzet tfilin machnisan zug zug ». Celui qui trouve des tfilin posées de façon méprisante dans la rue, il a le droit de les faire entrer à l'intérieur de la maison, en les portant une paire à la fois sur lui. Echadaish ve'echadaisha, que ce soit un homme qui les porte sur lui ou une femme. Dans Eruvin, il y a encore trois mots. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Là-dessus, Abaye demande, Vi amrat nashim am bifnei atzman hen. Et si tu veux dire que les femmes sont un peuple à part et que par conséquent, ce qui est un vêtement pour un homme ne l'est pas pour une femme. Mais pourtant, les tefillines sont une mitzvah positive qui est à des moments fixes, c'est-à-dire qui n'est pas constante. Et toute mitzvah positive qui est à des moments fixes, une femme en est exemptée. Puisque la mitzvah de tefillines n'est ni un bijou ni un vêtement pour la femme, on est donc obligé de dire que la raison pour laquelle Rabbi Meir autorise à une femme de porter des tefillines sur elle, c'est parce que les femmes ne sont pas considérées comme un peuple à part, et ce qui est une parure pour un homme l'est aussi pour la femme. L'Agmara répond, « Hatam kasavar Rabbi Meir laylaz man tefillin hu ve shabbat man tefillin hu. » Non, je dirais toujours qu'en vérité, les femmes sont un peuple à part, et ce qui n'est considéré comme parure que pour un homme ne l'est pas pour la femme. Mais là-bas, la raison pour laquelle Rabbi Meir autorise à une femme de porter des tefillines sur elle pour les faire rentrer à l'intérieur, c'est puisque Rabbi Meir pense que la mitzvah de tefillines existe aussi, à la fois la nuit et le Shabbat. Havele mitzvah tase shelo hazman grama. Du coup, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, qui est constante, V'chol mitzvat aseh shelo haznan grama nashim chayavot. Et les femmes ont l'obligation d'accomplir les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps. Et les tefilines sont autant un bijou de femme que d'homme. C'est cela la raison de Rabbi Meir qu'une femme peut porter des tefilines, puisqu'elle est considérée par la mitzvah de tefilines autant que les hommes. La Gemara demande sur la Mishnah qui dit qu'une femme qui sort avec une bague qui a un cachet à son doigt doit apporter un sacrifice de khatat. Vea otsak et la hariadhi. C'est pourtant sortir un objet de façon inhabituelle et on sait que chaque travail de Shabbat qui est fait de façon inhabituelle n'est pas une transgression des oraita et n'entraîne pas une obligation d'apporter un sacrifice de khatat. Amar Rabbi Yirmiya bisha gizbarit askinan. La première réponse de la Gemara est celle de Rabbi Yirmiya qui dit qu'ici il s'agit d'une femme trésorière qui se sert d'un cachet pour cacheter ses lettres à ses subordonnés et elle a l'habitude de porter une telle bague au doigt sans que ce soit un bijou pour elle. C'est pourquoi c'est une façon habituelle pour elle de porter une charge et ce n'est pas un bijou. Amar Rava tiratta isha. Rava objectait Rabbi Yirmiya. Tu as bien répondu pour la femme qui porte une bague avec un cachet. Il existe effectivement une femme particulière pour laquelle il est ordinaire de porter une bague avec un cachet et pour laquelle c'est une charge. Ish maïka lememar. Mais à propos de l'homme qui sort avec une bague sans cachet, on a vu plus haut qu'on l'a dit qu'un homme qui sort avec une bague sans cachet a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat alors que c'est inhabituel pour un homme de porter une bague sans cachet? Et là, Amar Rava, c'est pourquoi Rava a dit que c'est habituel pour toutes les femmes de porter des bagues même avec cachet au doigt. Pourquoi? Permim shadam noten li ishto tabat sheyesh aleha chotem leholicha lekufsa. Il arrive qu'un homme donne à sa femme une bague avec un cachet pour aller la ranger dans un écrin. Umanichata beyada achemagat lekufsa. Et elle porte cette bague à son doigt jusqu'à ce qu'elle arrive à l'écrin. C'est donc une façon habituelle pour une femme de porter une bague avec un cachet pour un service à son mari, quoique ce n'est pas un bijou pour elle, mais une charge. Upeamim sheaisha notenet lebaala tabat shen aleha chotem leolicha etzel uman letaken. Et il arrive qu'au contraire, une femme donne à son mari une bague qui n'a pas de cachet pour la porter chez l'artisan pour la faire réparer. Umanicha beyado achemagia etzel uman. Et l'homme la porte au doigt jusqu'à ce qu'il arrive chez un artisan. Et on voit ici qu'un homme a l'habitude de porter une bague au doigt même si elle n'a pas de cachet. Quoique ce n'est pas un bijou pour lui, mais une charge. C'est comme cela que Rava a interprété, à la fois pour l'homme et pour la femme, que de toute façon, c'est considéré comme une façon habituelle de porter une bague au doigt, qu'elle ait un cachet ou qu'elle n'en ait pas. Nous avons vu dans la Mishnah qu'une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat, velo bekouliar, velo bekovelet, ni avec une épingle de sûreté, ni avec un nœud de baume au cou. La Gemara traduit « maï kouliar ». Que veut dire le mot « kouliar » ?« Amar Rav Mahvanta » Rav a dit qu'il s'agit d'une épingle de sûreté pour fermer les pans de sa chemise. « Kovelet » Que veut dire le mot « kovelet » ?« Amar Rav Khumrata de Pilon » Rav a dit qu'il s'agit d'un nœud avec du baume attaché que portent les femmes qui ont une mauvaise odeur pour couvrir leur odeur. « Vechen Amar Ravasi Khumrata de Pilon » Et ainsi a dit Ravasi qu'il s'agit d'un nœud de baume. Tanou Rabbanan nous avait appris dans une braïta. L'otetse bekovelet, une femme n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec un nœud de baume. Vim yatsa chayevet rata divrei Rabbi Meir. Et si elle est sortie pendant Shabbat avec un nœud de baume, elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, c'est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim omrim l'otetse vim yatsa ptura. Chachamim disent qu'elle n'a pas le droit de sortir avec un nœud de baume pendant Shabbat, mais si elle est sortie avec, elle est exemptée d'apporter un sacrifice de khatat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transgression de horaïta, comme on verra. Rabbi Eliezer Omer, Yotza Isha Bekovelet Lechatrila, Rabbi Eliezer dit qu'une femme peut sortir délibérément avec un nœud de baume pendant Shabbat. La Gemara explique Bemaï Kamifligé. De quoi dépend la discussion de Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Eliezer? Rabbi Meir Savar Masoyhu. Rabbi Meir pense qu'un nœud de baume est considéré comme une charge et pas du tout comme un bijou, c'est pourquoi c'est interdit de horaïta. Verabanan savre tarchit hu, alors que les chachamim qui disent qu'on n'a pas le droit de sortir avec, mais qu'une femme qui est sortie avec est exemptée d'apporter un sacrifice de khatat, pense que c'est un bijou et pas une charge de horaïta. Vidilma salfa umirveye veatia leituye. Tout de même, c'est interdit des rabanan de crainte qu'elle l'enlève pour le montrer et qu'elle n'en vienne à porter ce nœud de baume en main sur une distance de 4 coudées dans la rue. Rabbi Eliezer, savar mandarka le mirmei isha sherechara. Et Rabbi Eliezer qui dit qu'on a le droit délibérément de sortir avec un nœud de baume, pense, qui est-ce qui a l'habitude de porter un nœud de baume? C'est seulement une femme qui a une mauvaise odeur. Isha sherechara, lo shalfa umirveya. Une femme qui a une mauvaise odeur n'enlève pas ce nœud de baume pour le montrer, car elle en a honte. Velo atia lietouye arba amot birshut arabim. Par conséquent, on ne craint pas qu'elle va le porter en main sur une distance de 4 coudées dans la rue, et c'est pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, c'est carrément permis. L'Agmara demande vehatania. Nous avons pourtant appris dans une Tosefta, Rabbi Eliezer poter bekovelet ou bislochit shel plaiton. Rabbi Eliezer exempte une femme qui est sortie avec un nœud de baume ou avec un flacon d'huile de baumier d'apporter un sacrifice de khatat. Et on peut donc déduire que ce n'est pas permis de rabbanan, puisque toujours quand il est dit qu'on exempte, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction tout de même, sinon on dirait que c'est carrément permis. Comment se fait-il que dans la Braïta citée, on voit que Rabbi Eliezer dit que c'est permis? L'Agma répond « Lokashia ». Ce n'est pas une contradiction. « Ha kikaye ade Rabbi Meir ». La Tosefta dans laquelle il est dit que Rabbi Eliezer exempte une femme qui est sortie avec un nœud de baume ou un flacon d'huile de baumier d'apporter un sacrifice de khatat, c'est lorsque Rabbi Eliezer ne discute qu'avec Rabbi Meir. « Ha kikaye ade Rabbanan », alors que la Braïta dans laquelle il est dit que Rabbi Eliezer permet de sortir avec un nœud de baume, c'est lorsque Rabbi Eliezer discute aussi avec les Chachamim. Kikaya de Rabbi Meir de Amar Chayav Khatat. Lorsqu'il ne discute qu'avec Rabbi Meir qui dit qu'elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de Khatat à Marley Patour, Rabbi Eliezer se suffit de dire qu'au contraire, elle est exemptée. Kikaya de Rabbanan de Amre Patour Avalasour. Lorsqu'il discute aussi avec les Chachamim qui ont dit qu'elle est exemptée mais que c'est interdit de Rabbanan, Amariou Moutar Lechitrila, c'est là que Rabbi Eliezer précise qu'au contraire, elle a même le droit délibérément de sortir avec pendant Shabbat, qu'il n'y a aucune interdiction, même pas de Rabbanan.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Samerbet à Moudbet. La Gemara demande « Umay Rabbi Meir ». Comment sait-on que Rabbi Eliezer ne discute dans la Tosefta qu'avec Rabbi Meir? Détania, car il est dit dans la Tosefta citée. L'otetse isha bemafter shebeyada. Une femme n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec une clé en main. Vim yatsa trayevet ratat divrei Rabbi Meir. Et si elle est sortie pendant Shabbat avec une clé en main, elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de ratat. Évidemment, c'est une transgression de horaïta de porter un objet dans la rue pendant Shabbat. Rabbi Eliezer poter bekovelet ou bisluchit shel plaiton. Rabbi Eliezer exempte une femme qui est sortie avec un nœud de baume ou un flacon d'huile de baumier au cou pendant Shabbat d'apporter un sacrifice de khatat. L'Agmara demande kovelet mandachar shma. Qu'est-ce qui a mentionné ici un nœud de baume pour que Rabbi Eliezer vienne discuter avec Rabbi Meir à ce propos? L'Agmara répond chasure mersara ve'achiktani. Il faut donc dire qu'il manque ici quelques mots dans la Tosefta, et voici comment il faut rajouter, comment est-ce qu'il faut lire la Tosefta après avoir dit l'interdiction de la clé. V'chen bekovelet, v'chen bitzlochit shel plaiton lotetse ve'im yatsa chayevet chata divrei Rabbi Meir, et ainsi avec un nœud de baume ou un flacon d'huile de baumier, une femme n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat, et si elle est sortie, elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer poter bekovelet ou bitzluchit shel plaiton. Rabbi Eliezer exempte si elle est sortie avec un nœud de baume ou avec un flacon d'huile de baumier. Rabbi Eliezer ne discute donc dans la Tosefta qu'avec Rabbi Meir. La vie des Chachamim n'est pas du tout mentionnée. La suite de la Tosefta est « Bamed varim amourim ». Dans quel cas est-ce que Rabbi Eliezer exempte une femme qui est sortie avec un nœud de baume ou un flacon d'huile de baumier au cou pendant Shabbat d'apporter un sacrifice de Khatat, « Kishiesh bem bosem » seulement s'il y a dedans au moins un peu de parfum, c'est là que se sont considérés comme des bijoux. « Aval em bem bosem chayevet » mais s'il n'y a pas du tout de parfum à l'intérieur, du coup, ils ne sont plus des bijoux, mais une charge, et c'est pourquoi elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, elle a transgressé une interdiction de Horaïta. Amar Ravada Barava Zotomeret. Ravada Barava a dit, on peut prouver de là que Rabbi Eliezer pense. Hamotzi Ochlin Pachot Mikeshiur Bikli Chayav. Celui qui a sorti pendant Shabbat des aliments, moins que la quantité minimale pour transgresser Shabbat à cause de la nourriture, dans un récipient, doit tout de même apporter un sacrifice de Khatat à cause du récipient. Or, au Daf Tzadik Gimel Amud Bet, la Mishnah dit qu'il est exempté, puisque le récipient n'a pas de propre importance lorsqu'il contient quoi que ce soit. La preuve que Rabbi Eliezer discute est la suivante. Deha enba bosem keparot mikeshiur bikli dami, puisque un flacon d'huile de baumier qui est complètement vide est comparable à une quantité inférieure à la quantité minimale dans un récipient, puisqu'il y a tout de même un reste d'odeur même si le flacon est complètement vide, uktani chayevet, et on a pourtant appris dans la Tosefta que Rabbi Eliezer pense que dans ce cas, une femme a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat à cause du récipient. On voit donc que le récipient a une propre importance, même s'il a une quantité infime, ici c'est d'odeur. Ravashi Amar, Be'alma et Malach Patour. Ravashi discute, il dit, je pourrais toujours te dire qu'en général, Rabbi Eliezer est d'accord que celui qui transporte un récipient dans lequel il y a une toute petite quantité de nourriture, il est exempté aussi pour le récipient, puisque le récipient n'a pas de propre importance, puisqu'il contient quelque chose. Veshani hachad elete le mamasha klal, et ici c'est différent, puisque dans le nœud de baume ou dans le flacon, il n'y a aucune substance, c'est pourquoi le récipient a une propre importance et elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, alors que quand il y a quelque chose à l'intérieur, Rabbi Eliezer est d'accord que le récipient n'a pas de propre importance. Il est dit dans la prophétie d'Amos qui parle des gens préoccupés par les plaisirs sans craindre la punition. Un des plaisirs est « Vereshit shmanim imshechou, ils soindront de la meilleure huile ». Amar Rav Yuda Amar Shmuel ze plaiton, Rav Yuda a dit au nom de Shmuel, il s'agit justement de l'huile de baumier. Mativ Rav Yosef. Rav Yosef pose une question sur cet enseignement de Rav Yuda au nom de Shmuel en citant une Tosefta dans laquelle il est dit « Afal Plaiton Gaza Rabbi Yuda ben Bava velo hodulo. Rabbi Yuda ben Bava, qui était après la destruction du temple, a aussi décrété de ne pas soindre avec de l'huile de baumier en deuil sur la destruction du temple, et les autres sages n'ont pas été d'accord avec lui. Vi Amrat Mishum Ta'anug. Et si Rabbi Yuda a dit au nom de Shmuel que l'huile de baumier était employée par ces gens pour le plaisir, Amai lo hodulo. Comment se fait-il que les autres sages n'ont pas été d'accord avec lui, qu'il faut l'interdire en tant que deuil pour Jérusalem, puisque c'est un plaisir? Amarle Abaye. Abaye a répliqué à Rav Yosef, Vilit Amir, d'après toi, que tout ce qui est considéré comme un plaisir doit être interdit depuis la destruction du temple. Hadirtiv Hashotim Bemizrekei Yain. Ce qui est dit dans ce même verset de Amos, ceux qui boivent dans des vases de vin. Le mot « mizrak », qui veut dire en général « lancer », va être interprété de deux façons différentes. « Rabbi Ami » et « Rabbi Assi ».« Chadamar knishkenin » Là-dessus ont discuté Rabbi Ami et Rabbi Assi. L'un indique qu'il s'agit de longs vases de verre à deux bouches dans lesquelles le vin est lancé d'une bouche à l'autre. « Vechadamar shemizarkin kosotem zeleze » Et l'autre a dit qu'ils lançaient leurs verres de l'un à l'autre. Hachanami de Asir, est-ce que là aussi il faudrait dire que du moment que ces gens se servaient de grands vases de verre pour le plaisir, on n'aurait pas le droit de boire dans des vases à deux bouches? והרבה ברבונה יקלה לברש גלותה ושתה בקנישקנין ולא אמר לב ולא מידה. Pourtant, il y a l'histoire de Rabba Bar Avuna qui était rendre visite au chef de l'exil. Le chef de l'exil buvait dans ce genre de verre, de grand vase de vin à deux bouches, et Rabba Bar Avuna lui a rien dit, c'est-à-dire que c'était sans doute pas interdit. Et là, kol mide de itbe ta'anug ve itbe simcha gazru rabanan, il faut donc dire que toute chose qui procure du plaisir et qui procure aussi de la joie, les sages ont interdit, aval mide de itbe ta'anug ve letbe simcha lo gazru rabanan, alors que quelque chose qui procure du plaisir mais qui ne procure pas de joie, les sages n'ont pas interdit en deuil de la destruction du temple, et ainsi l'huile de baumier qui procure du plaisir, du moment que ce n'est pas une chose de joie, n'a pas interdit par les sages en deuil pour la destruction du temple. Il est dit dans le même passage de Amos, « Ashorvim al mitot shen usruchim al arsotam » ces gens qui sont couchés sur des lits d'ivoire et qui sont vautrés sur leurs lits. On a traduit le mot « sruchim » par « vautrés », mais ici l'Agmara va interpréter qu'il s'agit d'une saleté sur leur lit. Amar Rabbi Yossi ve Rabbi Chanina melamed shayu mashtinin maim bifne mitoten arumim. Rabbi Yossi ve Rabbi Chanina a dit qu'on apprend de là que ces gens urinaient devant leur lit nu, ce qui est déconseillé comme on verra. Megadev bar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou s'est exclamé sur cette interprétation. Ihachi, s'il en est ainsi, qu'une de leurs fautes était d'uriner nu devant leur lit. Hainu dirtiv la renata iglu berosh golim. Est-ce que ça correspond avec la punition qui est dit plus tard dans le verset? Et maintenant, pour cela, ils seront exilés en tête de l'exil. Mishum de mashtinin maim bifnim mitoten arumim iglu berosh golim. Est-ce que par la faute d'uriner devant leur lit nu, ils devront maintenant être exilés en tête de l'exil? Et là, amar Rabbi Abaou, eloubne adam shayu ochlim veshotin zeimze. C'est pourquoi Rabbi Abaou interprète complètement autrement. Ici, il s'agit de gens qui mangeaient et buvaient ensemble, vedovkin mitoten zu bezu, et qui collaient leur lit ensemble, ou machlifin neshoten zeimze, ou masrichin arsotam beshirvat zera shena shelahen, et ils échangeaient de femmes l'un avec l'autre, et salissaient leur lit avec du sperme qui n'est pas le leur. C'est cela que veut dire des saletés sur leur lit, et cela est une raison suffisante pour partir en exil. Amar Rabbi Abaou ve Amrela be Matnita Tana. Rabbi Abaou a dit, et certains disent qu'on a appris dans une braïta. Gimel dvarim mevin et Adam l'idée aniut ve eluhen. Il existe trois choses qui provoquent à l'homme la pauvreté, les voici. Hamashtin maim bifne mitato arum. Celui qui urine devant son lit tout nu, puisqu'il est nu, il a la flemme de s'habiller pour sortir aux toilettes. Umezalzel bintilat yadaim. Et celui qui néglige l'obligation de se laver les mains avant le repas. Vesheishto mekalalto befanav. Et celui que la femme maudit en sa présence. L'Agmara explique. Amashtin maim bifne mitato arum. Celui qui urine devant son lit tout nu. Amar Rava lo amaran ela de mehader ape les pourriers. Rava a dit. Il n'a été dit que ça provoque la pauvreté que s'il est tourné vers le lit lorsqu'il urine. Aval l'ébraé l'etlanba, mais si il se retourne vers l'extérieur lorsqu'il urine, le jet s'éloigne du lit et il n'y a pas de problème. Umeader appelle les pourriers Nami lo Amaran et la Lehara, et même celui qui urine dans la direction du lit, on a dit que ça provoque la pauvreté que si c'est par terre qu'il urine, aval bemana l'etlanba, mais si c'est dans un récipient, il n'y a pas de problème. Umezalzel bintilat yadaim. Et dans quel cas est-ce qu'on a dit que celui qui néglige l'obligation de se laver les mains avant le repas provoque la pauvreté? Amar Rava lo amaran ela de lo macha yadei klal. Rava a dit, ça n'a été dit que s'il ne se lave pas les mains du tout. Aval macha velo macha letlanba. Mais si il se lave et il ne se lave pas, c'est-à-dire qu'il se lave pas correctement, il n'y a pas du tout de problème, c'est-à-dire que ça ne provoque pas la pauvreté. L'Agmara dit, velav miltahi. Et cette dernière chose que Rava a dit n'est pas juste. D'Amar Afrizda, anam ashaim melo chofni maya, viavuli melo chofni tivuta. puisque Raprida a dit « Moi-même, je me suis lavé avec beaucoup d'eau et il m'a été donné beaucoup de bonnes choses. » On voit donc que l'abondance de l'eau compte aussi, et ce n'est pas comme Rava qui a dit que du moment qu'on se lave les mains, même si c'est pas correctement, ça suffit pour éviter la pauvreté. « Veshiishto mekalalto befanav » Et dans quel cas est-ce qu'on a dit que si sa femme le maudit en sa présence, ça provoque la pauvreté? Amar Rava aliske tarchitea, Rava a dit, c'est à propos de bijoux qu'il refuse de lui acheter. Vernemilehu de Itle velo avid, et ceci n'est dit que s'il a les moyens de lui acheter et que ne lui achète pas, c'est dans ce cas que ça provoque la pauvreté. Daraj Rava bered Ravilai. Rava bered Ravilai a enseigné, Maïdirtiv, que veut dire le passage de Yeshaya? Vayomer Hashem Yan Kigavu Benot Sion. Hashem a dit, puisque les filles de Sion étaient hautes ou hautaines. Rashi dit qu'il s'agit de femmes mariées, c'est pourquoi c'était tellement grave. Alors ici on interprète que veut dire qu'elles étaient hautes. Shehayu Me'alchot Bekomaz Kufa, qu'elles marchaient bien redressées. Vatelachna Netuyot Garon, il est dit qu'elles marchaient le cou tendu. Shehayu Me'alchot Akev Betzad Godel, on explique que ça veut dire qu'elles marchaient le talon près de l'orteil, c'est-à-dire à petits pas, pour qu'on les regarde. Rashi dit que celui qui marche le cou tendu ne voit pas ses pieds et doit par conséquent marcher doucement. « Umesakot et Naïm, en regardant de leurs yeux, « De'avem la'an kuchla le'enayu umeramzan » elles se remplissaient les yeux de phare et faisaient des signes des yeux aux jeunes gens. « Halor vetafof » elles marchaient en flottant, « Shayu me'alchot aruka betzad ktsara » car elle marchait une longue dame près d'une petite dame pour que la grande ait l'air de flotter au-dessus. Il est encore dit, Ubraglen te akasna, elles empoisonnaient de leurs pieds. Amar Ravitrak de Berabiami, Ravitrak de Sherabiami a expliqué, Melamed shematilot morva farsemon beminaleen ou mealchot beshuke Yerushalayim. On apprend de là qu'elles mettaient des sortes de parfums dans leurs chaussures et qu'elles marchaient avec dans les rues de Jérusalem, Vekivan Shemagiot et Tsel Bachure Israël, Boatot Bekarka ou Metizot Alehem. Et lorsqu'elles arrivaient près des jeunes gens d'Israël, elles frappaient du pied par terre et faisaient gicler le parfum sur les jeunes gens, ou Machnisot Ben Yetzerara Keheres Bekaous, et faisaient entrer le mauvais penchant dans les jeunes gens comme du poison d'un serpent fâché. Maï pour Anoutéen, quelle est leur punition? Kededarij Rava Baroula. Comme Rava Baroula a interprété la suite des versets. Il est dit, Vahaya tachat bosem makiye. Et il sera à la place du parfum la décomposition. Makom shayu mitbasmot bo naase nemakim nemakim. On explique que l'endroit où elles avaient l'habitude de se parfumer sera décomposé. Vetachat ragura nikpa. Il est dit qu'à la place de la ceinture, ce sera brisé. On explique, Makom Shayu Chagurot Betzilzul Naase Nekafim Nekafim, l'endroit où elle se ceinturait d'une belle ceinture sera plein de blessures. Il est encore dit, Vetachat Maase Miksha Korcha, et à la place de bijoux en plaques d'or, la calvitie, Makom Shayu Mitkashtot Bo, ici on explique Miksha, c'est-à-dire qu'elle s'embellissait, l'endroit où elle s'embellissait en s'arrangeant les cheveux, Naase Kerechim Kerechim, sera plein de calvitie. Vetachat Petit Gil Margaret Sack, et à la place de la jouissance, elles se vêtiront d'un sac. Ptachim Amevin Lide Gila Iou le Margaret Sack, à l'endroit des ouvertures qui amènent la jouissance, c'est-à-dire les parties intimes, sera entouré d'un sac. Kitachat Yofi, car tout cela à la place de la beauté. Amar Rava Hainud Amre Inshei, Chaloufei Shufra Kiva. Rava a dit, c'est comme les gens disent, en échange de la beauté, du pu. Il est encore dit, Vesipar Hashem Kodkod Benot Sion. On va voir que ça veut dire, et Hashem mettra des plaies de tsaraat sur le crâne des filles de Sion. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina Melamed Shepacha Ba'en Tsaraat. Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit, on apprend de là que des plaies de tsaraat ont poussé en elle. Comment voit-on cela dans le mot Vesipar? Ktivacha Vesipar, il est dit ici le mot Vesipar la racine en étant sapachat, uktivatam la seet ve la sapachat, et il est dit à propos des plaies de tsaraat, les plaies de seet et de sapachat, on voit donc que c'est un nom de plaie de tsaraat. Il est encore dit, vehachem petahen yeare. On va traduire, et Hachem versera leurs ouvertures, c'est-à-dire leurs parties intimes. Là-dessus, il y a une discussion entre Rav ou Shmuel. Chadamar shenishpechu kekiton. L'un d'eux a traduit le mot yare, comme on a dit, versera, et ça veut dire que se versera d'elle du sang des règles comme d'un bro. Vechadamar shenasu pitren kiyar, et l'autre a traduit le mot yare, comme si ça voulait dire yar, qui veut dire une forêt, c'est-à-dire que leurs parties intimes se sont couvertes de poils comme une forêt. Jusque-là, l'Agmara a parlé des femmes de Jérusalem, maintenant l'Agmara va parler des hommes de l'époque. Amar Rav Yuda, Amar Rav, Anshe Yerushalayim, Anshe Shachat Sayu. Rav Yuda a dit au nom de Rav, les gens de Yerushalayim étaient des gens orgueilleux. Adam Omer le Chavero, Bame Sa'ata Hayom. Un homme demandait à son ami, comment est-ce que tu t'es restauré aujourd'hui? On verra que toutes ces questions sous-entendent un rapport interdit avec une femme. Bepat ameila ou bepat sheina ameila. Alors il lui demande, est-ce que tu as mangé du pain qui a été bien pétri, c'est-à-dire une femme pas vierge, ou alors est-ce que tu as mangé du pain qui n'a pas été pétri, c'est-à-dire une femme vierge? Beyaim gordeli. Oh.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.